Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va bien, toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. Bonsoir, les Distordus.
Oui.
On a un épisode un peu spécial aujourd'hui pour vous.
Oui.
On vous présente un enregistrement live qu'on a fait devant public le 15 novembre 2023,
oui.
Au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. C'est un épisode qu'on a fait sur un peu une thématique qu'on veut amener live de plus en plus, sur le cabaret des curiosités web. Donc, dans ce concept-là, moi et Seb, on amène trois histoires étranges, des mini-histoires ou des mini-trouvailles web qu'on connaît plus ou moins chacun. Donc, on se les présente un peu comme des surprises. Puis, on a présenté ça devant, ma foi,
une centaine de personnes.
Oui, une centaine de personnes, une belle salle comble avec nos amis de Un peu de crime dans ton café et de Crime Tonic aussi. C'est Audrey d'Un peu de crime dans ton café qui est derrière cette idée-là de réunir trois podcasts, True Crime, et de présenter quelque chose de différent live. Comment tu as trouvé ça comme expérience, toi, Seb?
Ah, moi, j'ai adoré, évidemment, c'était pas notre premier spectacle live, mais de présenter, c'était la première fois qu'on... malgré que live, on sort toujours un peu de notre zone de confort.
Ben oui.
Mais ça, c'est que j'ai aimé beaucoup l'interaction avec les gens. Que ça a permis d'avoir, de présenter du visuel, ce qu'on n'a pas habituellement en podcast, puis de présenter des trouvailles, puis justement de discuter, d'interroger. Moi, j'ai aimé ça, les feedbacks, puis ça permet aussi de présenter des trucs qu'on peut pas présenter dans les épisodes en tant que tel, parce que ça cadre pas avec notre format en tant que tel.
Oui, exact. C'est quelque chose qu'on essaye. Dites-nous si vous aimez ça. Dites-nous si vous aimeriez qu'on passe dans votre région présenter un cabaret des curiosités web. Le but, c'est qu'à chaque fois, on veut avoir des histoires différentes.
Oui,
parfois, c'est juste des chaînes YouTube bizarres, des contenus TikTok bizarres, des trucs un peu weird qu'on trouve sur le web. Dans ce cas-ci, Seb va nous parler d'un site étrange où on peut voir plein de caméras de surveillance en ligne. Moi, je vous parle de l'histoire de Chip Chan, donc une Coréenne qui est constamment filmée et tranquillement, comme ça, vous allez voir, on parle de 6 curiosités.
Oui.
Et on voulait vous la présenter, la rendre gratuite, disponible à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire à chaque fois, parce qu'on veut quand même donner une petite exclusivité aux gens qui viennent nous voir sur place. Mais comme ça, on risque de sortir quelques épisodes du cabaret des curiosités web.
Oui, avec plaisir.
Et sans plus tarder, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui?
Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, Émile, savais-tu que tu peux réduire tes appels et tes emails indésirables avec les services d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Incogni?
Comment ça marche, ça, Seb? Parce que je t'avoue que j'aimerais bien trouver une solution. Ça devient lourd au quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui se fait constamment hacker et puis harponner son adresse courriel.
Ah oui, je suis dans la même situation que toi. Et c'est là qu'Incogni entre en jeu, Émile. C'est que c'est un service qui agit en retirant tes informations personnelles des sites de courtiers en données. Ça, là, c'est des entreprises qui collectent et qui vendent tes informations à des fins marketing ou autres. Ainsi, Incogni, lui, te permet de reprendre le contrôle sur tes données personnelles.
Fascinant. Puis il s'oppose donc à tous les courtiers en données qui monnayent nos informations, ce qui a pour effet de diminuer le risque de vol d'identité. Puis comment est-ce que je pourrais bénéficier de ces services-là, mon cher Seb?
C'est assez simple. Tu t'inscris sur le site incogni.com/distorsion. C'est I-N-C-O-G-N-I. .com/distorsion et avec notre code spécial distorsion, tu obtiens 60% de rabais pour le temps des fêtes.
Oh, 60 % de rabais, c'est bon ça. Puis ça ressemble à quoi les tarifs?
C'est une bonne question. L'abonnement annuel d'Inconnie est non seulement très abordable à seulement 6,49 $ par mois avec une facturation annuelle, mais il existe aussi l'option mensuelle. Le processus d'inscription est assez simple et automatisé, facilitant ainsi l'accès à ce service qui est essentiel.
Puis j'imagine que ça doit être garanti si je change d'avis.
Oui, parce que si ça ne fait pas ton affaire, ils offrent une garantie de remboursement de 30 jours, donc c'est facile à annuler.
Dès qu'on finit l'épisode, je vais m'inscrire, Seb, parce que j'en ai vraiment marre du spam. Je veux moins de risques, puis c'est exactement ce que j'ai besoin. Puis, il me semble que c'est même une marque de NordVPN, ça.
Oui, exact. C'est leur cousin, en fait. Donc, c'est comme un complément. Avec NordVPN, tu navigues en protégeant tes informations. Et Inconnie empêche que tes informations personnelles se retrouvent dans les mains de gens que tu ne voudrais pas.
Un gage de confiance.
Oh oui.
Et sans plus tarder, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui?
Oui, oui, monsieur.
C'est parti.
On enchaîne ça tout de suite avec nos derniers. C'est les doyens de la soirée, les vétérans. Ça fait vraiment longtemps qu'ils font du podcast. Ça fait plus que 15 ans qu'ils se connaissent. Ils font des trucs, justement, ils sont à l'affût de tout ce qui se passe dans l'ère de la technologie. Je vous demande d'applaudir très fort Distorsion, Sébastien et Émile.
Bière, ça faisait un petit peu marche nuptiale, ça,
oui,
c'est bon, en descendant comme ça, l'escalier en tourniquet.
C'est une grosse nouvelle pour 2024.
Tout d'abord, comment vas-tu, Sébastien Lévesque?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce qu'on est live au Théâtre Sainte-Catherine pour un concept de soirée qui est quand même intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, guys, de ce soir? Vous aimez votre soirée jusqu'à date? Yeah! Cool! Un gros shout-out à Audrey, en fait, d'un peu de crime dans ton café qui a pris l'initiative d'organiser tout ça, pendant que subtilement
on ajuste
nos mics.
Ce micro très phallique.
Yes! On teste un petit concept à soir avec vous, guys, parce qu'on a envie d'en faire plus, des rencontres comme ça. Ça nous a manqué pendant la pandémie. On a envie de vous voir, puis on a envie de faire des shows devant le public. Puis, on a pensé à un petit concept de cabaret des curiosités du web.
Oui.
Donc, vous savez, nous, dans nos recherches, on parcourt le web constamment. On fait des découvertes inusitées, mais parfois, c'est des découvertes qui sont... trop obscur ou parfois on n'a pas assez de matériel pour faire des épisodes complets. Donc, on s'est dit, pourquoi pas les aborder, ces petites histoires-là, ces petites pépites là, qu'on déniche sur le web, qui sont parfois weird, parfois troublantes, puis de les partager avec vous dans ce concept de show-là.
Oui, c'est comme des petites collations de distorsion.
Yes. Donc, on a choisi trois sujets chacun, trois curiosités du web.
Oui.
On s'en est pas trop parlé. Surtout toi, Seb, qui a décidé à 24 heures d'avis de changer le trois quarts de tes sujets.
Ah, j'ai trouvé des nouvelles choses encore plus.
Oui, donc on va surprendre un peu l'un l'autre, puis j'espère qu'on va vous surprendre vous aussi
on espère.
Pour le prochain épisode. Donc, Seb, est-ce que tu es prêt à te lancer dans cette première édition des Curiosités du web?
Oh oui, monsieur et madame.
C'est parti. En fait, c'est toi qui casses la glace,
oui,
Seb, avec ton premier sujet. Vas-y, lance-toi.
Oui, est-ce que le grand technicien a mis... grand technicien, pouvez-vous aller à la prochaine slide?
Prochaine acétate.
Oui, acétate, ça fait encore plus scolaire. D'avoir un PowerPoint, je dois vous avouer que je me sens enseignant. Le premier phénomène, en premier, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des parents dans la salle, mais qui étaient parents dans les années, puis qui avaient des enfants de, disons, entre 4 et 10 ans dans les années 2016-2017? Est-ce que vous...
C'est une fenêtre très précise,
oui,
de l'espace-temps.
Oui, exact, mais elle est importante, en fait, parce que si vos enfants avaient cet âge-là, je ne sais pas si vous vous rappelez est-ce que vous, si vos enfants consommaient des vidéos YouTube, il y avait plein de vidéos, justement, où ce que, il y avait des personnages déguisés en Elsa de Frozen, dans Spider-Man, Joker, etc. Et moi, ma propre fille était tombée dans ce genre de vortex-là de vidéos un peu étranges, mais qui attiraient les enfants, mais avec des connotations un peu étranges. Ça s'appelle le Elsa Gate, en fait.
Le phénomène en soi.
Oui, exact. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà été... Est-ce qu'il y en a qui ont... Leurs enfants ont déjà été confrontés à l'algorithme de YouTube et avec les vidéos de ce style-là? Oui, oui, oui. Est-ce qu'en tant que parent, ça vous dérangeait à l'époque ou vous trouviez ça un peu bizarre, cet attrait-là? Je me demande si j'étais le seul à voir ça. Non, je vois des gens réagir positivement. En fait, pour vous expliquer, le Elsa Gate, c'est vraiment été une controverse qui a duré à peu près 2 ans. Là, de 2016 à 2017, il y a des gens, dont des Québécois, des Québécois de la rive sud de Québec, qui ont profité d'une faille, si on veut, ou plutôt, ils ont bien compris l'algorithme de YouTube pour faire de l'argent. Puis ça l'a même amené à changer les règles de YouTube par rapport à la monétisation puis aux vidéos qui sont exposées aux enfants. Il y a la chaîne principale qui était... malheureusement, on n'a pas l'Internet par le grand technicien, mais on aurait pu vous montrer des vidéos, mais vous pouvez voir un peu... Le style un peu déjanté de ces captures d'écran-là.
C'est des dessins animés ou c'est un mix de
c'est
de
un mélange, en fait.
Live action et
c'est ça,
dessins
faut pas
animés?
Toujours, oui, c'est toujours du live action, généralement. Mais la recette qu'il avait trouvée, en fait, Toy Freak, c'est qu'il créait sur YouTube, pour faire de l'argent, il faut que tu fasses des vidéos de plus de 10 minutes pour pouvoir placer plus d'une publicité à la fois. Puis eux, ce qu'ils avaient compris, ils avaient compris l'algorithme que... Dans le fond, à chaque vidéo, il faisait une nouveauté. Au début de la vidéo, il prenait 2-3 minutes de nouveauté. Après ça, il reprenait plein de montages de leurs vieilles vidéos. Il recollait ensemble, ça fait des longues vidéos. Puis ça, là, ils dupliquaient, ils ont créé une dizaine de chaînes par rapport à ça, avec tous des noms différents. Puis ils récupéraient chacune des vidéos pour faire des millions et des millions de dollars. Là, sur YouTube, là, dites-vous qu'en moyenne, vous faites entre 2 et 4 dollars à chaque 1000 vues quand vous êtes monétisé. Et les enfants, ils voyaient que du feu. Ils reprenaient que l'algorithme constamment par rapport à ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, les médias américains en 2017, il y a un blogueur qui a soulevé, en fait, ce... J'ai chaud, là, il fait tellement chaud. qui a soulevé un peu ce phénomène-là. Et automatiquement, ils ont soulevé ça à l'été 2017. Puis YouTube ont quand même réagi assez rapidement. En novembre 2017, ils ont fait un grand, grand nettoyage. Ils ont supprimé la majorité des vidéos qui étaient un petit peu dérangeantes par rapport à ça. Puis ils ont resserré les règles là, par rapport à la publicité aussi, qui sont exposées aux enfants. Puis ces vidéos-là, là, ils ont l'air banales, hein, mais souvent, c'est des vidéos vraiment étranges, des drôles d'accouchements, l'utilisation de seringues, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de vidéos à connotation sexuelle. Puis même, je me rappelle que dans les derniers mois, où ma fille l'écoutait, j'étais vraiment de plus en plus mal à l'aise, puis j'espérais qu'elle change d'angle parce qu'il y avait quelque chose d'étrange. Puis,
ben, les chaînes parentales, ben, j'appelle ça chaînes parentales.
Oui,
là,
oui.
Je sais qu'il y en a qui se tiennent et qui ont une certaine éthique, tout ça, mais c'est un rabbit hole en soi. Là.
Oui, ah oui.
Il y a du stock à creuser là quand même.
Ah mon Dieu, des enfants, pas des enfants, mais des parents qui exploitent des enfants, oui. Mais dans ce cas-ci, l'exploitation, en fait, c'était des comédiens, puis l'enfant est exploité au niveau le fait qu'il est exposé à de la publicité, qui n'est pas nécessairement pour lui, puis ça générait beaucoup de revenus. Puis la chaîne québécoise, je ne sais pas si vous vous rappelez, monsieur le grand technicien, si vous pouvez changer de slide... Au Québec, c'était la chaîne Toy Monster, en fait, qui était notre penchant québécois. Et eux, il y a un média, il y a un média de Québécois qui est numérique, en fait, qui ont fait une entrevue, puis ils ont fouillé sur Google Maps, Google Street View et tout ça pour repérer physiquement où étaient filmés ces vidéos-là. Puis ils se sont rendus compte que c'était sur la rive sud de Québec. Ils ont trouvé la maison. Le journaliste est allé... C'est Tabloïd, c'est ça, Tabloïd de Québécois qui avait fait un reportage là-dessus il y a quelques années. Il avait été cogné là-bas, puis tu voyais la comédienne qui était habillée en Elsa et tout ça. Et, okay. Et oh non, c'était vraiment mal à l'aise. Tous les comédiens étaient « Comment vous avez fait pour nous trouver? » Puis personne ne veut parler parce qu'ils ont comme une clause de confidentialité par rapport à ça. Mais ils ont estimé qu'avec leur chaîne, ils ont fait environ 2,5-3 millions US. Quand même en un an et demi à peu près. Là. Puis oui, ils ont payé les comédiens tout ça, mais imaginez la quantité d'argent qu'ils ont fait. T'sais, en même temps, c'est un peu... J'ai pas l'impression qu'à la base, ils voulaient tant que ça, comment dire, tout le côté malsain qu'on pouvait repérer des vidéos. Je pense que c'était plus pour créer une sorte d'attraction. Mais t'sais, de frauder l'algorithme de YouTube et tout ça, c'était... Il y a un côté de moi qui dit que c'était brillant, dans le sens qu'ils ont bien compris la recette, mais en même temps, c'est les enfants qui écopaient de tout ça. Là. Mais la chose positive, c'est qu'au moins maintenant, supposément qu'il y a un retour de l'Elsa Gate, de ce que j'ai lu, d'autres vidéos encore.
Il serait de retour sur YouTube?
Oui, exact.
OK, sur la même chaîne?
Pas sur celle-là, mais ça, c'est... Ah oui, parenthèse, c'est ça. Cette chaîne-là, en fait, Toy Monster, je suis allé retourner dessus parce qu'elle avait été vraiment effacée, mais elle est de retour. Mais il ne reste que quelques vidéos d'il y a 7 ans, dont un ou deux qui sont encore un peu creepy. C'est pas les plus creepy, puis je sais pas pourquoi c'est revenu à la charge. Mais là-dedans, même si YouTube et tout ça, il y a personne qui a été, il n'y a pas eu de justice. Même le propriétaire de la chaîne Toy Freaks aux États-Unis, il y a eu une enquête de la police qui venait, je ne sais plus de quel État américain. Finalement, légalement, il n'était même pas capable de les accuser de quoi que ce soit par rapport à ça. Fait qu'encore une fois, on voit qu'il y a un genre de trou législatif, on dirait, dans... comment dire, l'exploitation des technologies, l'enfant, la publicité, etc. Donc, c'est un truc qui est quand même assez dérangeant, mais heureusement, ça a eu le côté positif, je pense, de redresser les choses. Là.
Puis est-ce qu'il y a eu des répercussions pour la gang de la Rive-Sud de Québec?
On n'en a jamais rien entendu parler. On n'a jamais pu identifier les propriétaires à 100%. Il y a une entrevue de Tabloïd qui est toujours disponible sur YouTube, mais ils ont flouté les visages du propriétaire et tout ça. Mais quelqu'un qui habite sur la Rive-Sud pourrait facilement repérer l'endroit où ce que ça a été tourné. Mais à voir. Hein. En tout cas, aujourd'hui, ces gens-là peuvent facilement vivre de leur placement, j'ai l'impression.
Mais là, ils sont de retour ou quoi?
Bien, c'est pas clair, en fait. C'est ce que je lisais, c'est qu'il y avait, mais c'est pas eux. C'est que parce qu'il y avait une chaîne américaine, puis je pense que les Québécois ont comme copié dessus sur la formule. Puis les deux s'entremêlaient, puis ils dominaient un peu le marché de ça. Mais de ce que j'ai lu, il y avait un retour par rapport à ça. Il y avait d'autres chaînes un peu étranges avec des vidéos, encore une fois, avec ce type de connotation-là, des comédiens qui prennent des costumes. T'sais, en même temps, il y a un problème de droit d'auteur. Là. Ces gens-là étaient déguisés en Elsa, en Spider-Man, en Joker.
C'est une zone grise, ça,
ils ne payaient pas les droits, oui, exact. Donc, c'est un peu particulier de pouvoir exploiter une œuvre sans payer les droits d'auteur. Voilà.
OK, ben merci pour cette première histoire. Seb, Elsa Gate, j'avais entendu brièvement parler
oui,
aussi.
Oui.
Je sais que ça avait fait scandale un peu quand même là, à un certain moment, mais
oui.
Je ne connaissais pas autant en détail.
Il y avait même des rumeurs de trafic humain et tout ça, mais bon, je pense que ça, c'est plus du okay. bar. Bref.
On va surveiller le cas. Sinon, c'est à mon tour,
oui,
je pense, d'enchaîner avec ma première histoire, puis... en fait, une soirée comme ça serait pas complète sans une chaîne TikTok weird.
Non, exact.
Donc, on peut présenter le prochain sujet. Oh oui, vous savez, il y a des sites de foodies, il y a des chaînes TikTok de foodies et il y a aussi Geek McNest, qui est une chaîne assez troublante, en fait. C'est dur à expliquer un peu, puis on en discutera à la fin pour voir si c'est vraiment une... s'il n'y a pas quelque chose derrière, une mise en scène ou autre. Mais bref, depuis 2020, cette personne-là, en fait, je pense pas que ce soit son nom, mais il y a quelqu'un qui diffuse des vidéos sur TikTok qui semble habiter dans une genre de maison en ruine, potentiellement à Tchernobyl. Okay. Donc, c'est quand même assez weird. Et là, vous voyez, en fait, depuis 2020, il a été très productif sur TikTok. C'est quelqu'un, en fait, on ne sait pas qui est derrière ce compte-là, mais lorsque je regardais cette semaine, il y avait 1,8 million d'abonnés.
Oui, c'est fou quand même.
Ouais, puis on parle de 45 millions là, de likes, en fait, sur cette chaîne-là. Là, vous voyez, il est quand même assez productif, sauf qu'il a arrêté mystérieusement de streamer en 2022. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Il est peut-être tombé malade, hein, s'il vivait dans cet environnement-là.
Il y a des gens qui disent qu'il serait peut-être allé servir, en fait, la guerre Russie-Ukraine, oh, okay. En fait. Donc, c'est ça fait partie un peu des conspirations autour de ce compte TikTok-là qui est mystérieux. La personne filme des vidéos, ça se déroule dans une maison qui est complètement insalubre. C'est de la viande qui est infestée d'insectes. Il y a des pièces avec du sang sur le sol. Il y a ce qui semble être même des cadavres d'animaux, des choses comme ça dans la maison qui est assez insalubre. C'est une maison qu'on dirait qui a été limite presque bombardée, en fait. On est surpris qu'il y ait l'électricité là-dedans. Puis la personne, elle se filme en cuisinant. Donc, c'est toujours des repas. On présume que c'est ce qu'il mange, lui ou elle et sa famille, parce que des fois, on entend des drôles de bruits en bruit de fond. On suppose qu'il y a d'autres personnes qui habitent dans la maison. Des fois, on entend des bruits d'enfants qui pleurent au loin. C'est vraiment creepy, là, tu sais. Âme sensible, s'abstenir, on n'écoute pas ça en cuisinant surtout. Puis, il y en a même qui disent qu'ils ont vu des doigts humains dans la cuisine que cette personne-là fait. C'est tout le temps quand même assez dégueulasse. Imagine qu'on prend plein de nourriture avariée puis qu'on décide de faire une recette de Ricardo avec ça. Là,
oui, oui.
Ça c'est vraiment trash.
C'est en combien de temps les vidéos, à peu près? Une couple de minutes?
À cette époque-là, c'est-à-dire, il y en a combien de vidéos?
Non, pas combien. Elles durent combien de temps, à peu près?
Des vidéos TikTok, donc c'est très court. Oui, moins d'une minute, c'est sûr.
Ça peut être plus long.
Plus long que ça, quand même. Mais c'est des vidéos très, très courtes. Okay. Des fois, tu as une musique avec une musique traditionnelle russe, on dirait, qui joue en background. Il y a des gens qui disent, parce que là, cette chaîne-là est devenue un petit peu virale, donc il y a des gens sur Reddit qui ont commencé à en discuter aussi. Il y en a qui ont dit qu'en décortiquant toutes les vidéos, chose que je n'ai pas faite parce que ça, après trois, je veux dire, ça te lève le cœur. Quoi qu'il y en a qui ont fait ça... En fait, ça pour nous.
Il y en a qui sont plus forts que nous.
Mais justement, je vous ai parlé un peu de ce qui ressemblait à un doigt humain à un moment donné quand il y a de la cuisine. Il y a quelqu'un qui fait un genre de rituel à un moment donné en allumant des chandelles, en disant des drôles de trucs. On voit vraiment, justement, il ouvre le frigo, puis c'est plein d'insectes. Puis on voit même un truc vraiment troublant. On voit une main d'enfant à un certain moment donné. La main n'est pas coupée. Là, on voit juste la vidéo. Au travers tout ça,
juste
il y a
un
une
peu
vidéo
de sauce,
où on le voit qu'il tient une main d'enfant. Tu sais.
Okay.
Donc, on se dit, est-ce qu'il s'en va cuisiner ça? Donc, c'est quand même assez weird de ce côté-là.
C'est de l'économie circulaire.
Il y a eu une chaîne YouTube aussi mystérieuse dont le nom était « If I Can't Have You ». Donc, un nom qui est quand même plus éloquent que le compte TikTok qu'on a ici. Mais lorsque je suis allé, il n'y avait plus aucune vidéo. Donc, c'était complètement vidé de vidéos. À un certain moment, la personne s'est exprimée, en fait, sur la chaîne YouTube. Elle a répondu à un commentaire en disant, en russe, bien sûr, « Je suis sans abri, je ne bois pas, je ne fume pas, mais je suis devenu sans abri comme ça en raison de la vie. Ma maison a été détruite. Après avoir eu un AVC, je suis devenu handicapé et mes proches ont vendu mon appartement et m'ont jeté dans la rue. Et maintenant, je vis ici. » Donc, c'est un peu
c'est triste quand même,
ce qu'il raconte. Et par contre, il y a quand même une question à se demander sur est-ce que c'est une vraie chaîne?
Oui, c'est ce que je me demandais.
C'est une mise en scène ou quelque chose comme ça. Il y en a plusieurs qui ont remis, plusieurs internautes ont remis des choses en cause là, en lien avec ça. De un, la maison a l'air d'être presque bombardée, mais tu sais, il y a clairement l'électricité, il y a clairement, un poêle au gaz. Donc, c'est surprenant de voir comment est-ce que ces services-là sont encore là à cause que, malgré le fait que la maison est presque bombardée, on voit souvent un micro-ondes en marche, des électroménagers, même s'ils sont un peu trash, ça marche quand même.
Je parle pas qu'il y a une génératrice. Donc,
c'est ça. Puis il y a des gens qui ont commencé à décortiquer les vidéos, puis à dire « Ah, ben finalement, la vidéo où on dirait que c'est des doigts humains, ben ça ressemble à des panais qui auraient peut-être été cuits dans une casserole avec, au lieu d'être du sang, c'est...
Jamais des panais de la même manière.
Non, exactement. C'est pareil pour moi, je vais avoir de la misère, je pense. C'est quand même... Il y a des choses qui sont discutables, puis moi, après avoir regardé plusieurs vidéos quand même provenant de ce compte-là, il y a un détail qui me frappait aux yeux, en fait, c'est à quel point... vous allez peut-être rire de moi, mais à quel point cette personne-là a les mains propres, en fait.
Ah, ben au moins, il est hygiénique.
Parce que tu vois ses mains cuisiner, tout ça, parce que ce qui est dans l'assiette est dégueulasse, ce qui est autour est vraiment dégueulasse, mais des fois, tu vois des gros plans sur ses mains, mais sont super propres, alors que quelqu'un qui vit dans la rue, en fait, ça se salit assez vite.
Il est peut-être germophobe, comme ça.
C'est quand même assez marquant. Puis, un autre détail qui est intriguant aussi, c'est qu'on voit jamais personne manger ce qu'il cuisine.
Ah ben ça.
Vous me suivez? Donc, si on voulait pousser vraiment le creepy, ce côté-là sordide au max, on filmerait quelqu'un qui mange ses espèces de repas cuisinés sur le fly. Donc, moi, je pense que c'est un hoax. Je pense que c'est fake, en fait, ce compte-là.
Oui, je pense que oui, avec ce que tu dis, les mains propres et tout ça. Mais en fait, je me demande toujours l'intérêt de créer ce type de vidéo-là, à part l'attraction que ça apporte puis une forme de conspiration.
Ben, je pense qu'il y a un rabbit hole. Il y a un iceberg TikTok de trucs weird. Je pense qu'on peut décortiquer, puis je pense qu'on va bien s'amuser aussi dans nos prochaines saisons puis dans les prochains shows comme ça, d'en décortiquer plusieurs. Mais il y a de la place pour tout sur TikTok. Donc, je pense que c'est le genre de contenu qui... je suis toujours surpris de voir qu'il y a 1,8 million d'abonnés quand même.
Oui, le nombre de vues sur TikTok.
Mais je pense qu'il y a de la place pour tous les contenus sans trop d'exception, malgré même les chaînes comme ça, que c'est de l'anti-foodisme.
Oui, exact. Oui, c'est vrai. Je serais curieux de voir s'ils utilisent des hashtags. Puis de toute évidence, ça ne contrevient pas aux termes et conditions de la plateforme. Donc
c'est tout à fait legit. Donc, je vous encourage à aller voir cette chaîne-là si vous voulez voir du nouveau type de contenu, du moins. La chaîne de Jeek McNest.
L'inspiration culinaire.
Prochain sujet, Seb, à ton tour.
Maintenant. Oh oui, prochaine slide, monsieur le grand technicien. Pour ceux qui n'ont pas la référence du grand technicien, je vous invite à googler Vidéotron fâché dans YouTube. On s'en reparle. Deuxième phénomène, ça me trouble. En même temps, c'est addictif. Ça s'appelle insectcam.org, puis c'est un vrai site Internet qui est toujours fonctionnel, en fait. Et ça, c'est un site russe qui existe depuis 2015, en fait. Je nomme russe juste pour nommer de sa provenance. Et ce site-là, il répertorie toutes les webcams du mieux qu'il peut, mais qui ne sont pas sécurisées, en fait. Parce que souvent, on le sait, les gens installent une webcam chez eux ou dans leur commerce, puis c'est pas tout le monde qui connaît ça. Souvent, ils vont laisser les mots de passe « admin » à ne pas faire. Ça permet à ce site-là, je vous dirais, il répertorie tout, par pays, par ville. Il y en a à Montréal, comme là, on voit ça, c'est deux captures d'écran de ce matin. Donc, la Zamboni à Montréal, d'un aréna. Et il y a un autre phénomène aussi qui est assez étrange, qui est écrit... attends un petit peu, je vais essayer de le lire comme il faut ici, là, parce que mon cou n'est pas assez souple. Je ne suis pas assez souple du coup. C'est « Fuck you, Spike Hunter ». Et pardon pour le « fuck you ». Mais vous voyez, il y a plein... Puis c'est un autre rabbit hole que je n'ai pas encore, creusé jusqu'au bout du trou. Parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de CCTV, hein, les caméras de surveillance, qui ont ce libellé-là qui est affiché. Puis c'est vraiment étrange. Les gens ne comprennent pas pourquoi c'est là. Parce que ça, c'est des filles qui ne sont pas protégées, ou du moins volontairement, qui n'ont pas été protégées, que les gens peuvent y aller. Puis au fil du temps, je pense que c'est très controversé, ce site-là. Ce n'est pas illégal. Mais... disons que c'est particulier. Si on va à la slide suivante, ça, par exemple, je ne sais pas si... Ah oui, voilà. Ça, c'est dans un commerce de souliers en Bulgarie. Puis toute la journée aujourd'hui, je faisais toujours des refreshs pour voir les nouveaux clients.
Devenir addictif.
Ouais,
hein,
c'est vraiment addictif.
C'est un peu comme de la slow TV.
Oui,
part, hein,
c'est vraiment bizarre. Puis sur le site, c'est vraiment cool. Vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Ils classifient, tu peux chercher, comme je vous disais, la géolocalisation par pays, tout ça, mais tu peux chercher par endroit. Tu peux, ils classifient des cafés, des bateaux, toutes sortes, des bureaux, des work office, des bureaux de travail aussi. Aujourd'hui, j'ai vu des gens travailler dans un bureau. C'est tellement étrange parce que ces gens-là ne le savent pas. Ils savent qu'ils sont filmés peut-être, mais ils ne savent pas qu'il y a peut-être des milliers de personnes un peu partout dans le monde un peu creepy sur un écran qui check ce qu'ils font actuellement.
Le passeur de Zamboni, là, il a droit à son intimité, lui.
Oui,
aussi,
exact. Mais il y a un magasin, je pense qu'il était en Russie justement ce matin, puis j'étais mal à l'aise là, parce que c'était une boutique de vêtements pour femmes, puis la caméra était directement pointée vers la salle d'essayage.
OK.
Puis oui, il y avait les rideaux, mais tu vois toujours les petites madames rentrer avec leurs vêtements. Puis il y avait quelque chose de vraiment étrange. Puis même sur Reddit, le danger avec ça, c'est que il y a plein de gens, à un moment donné, se mettaient à chercher des hommes, des femmes qui dormaient, tu sais, qui s'installaient des caméras chez eux et qui ne savaient pas qu'ils n'étaient pas sécurisés. Puis le danger, c'est que c'est des URL, c'est des liens que tu peux, après ça, envoyer sur Internet. Ils ont quand même l'ouverture que si tu dis que tu veux enlever ta caméra du feed, tu peux leur écrire, ils vont le faire, mais ils recommandent quand même de sécuriser la caméra. Parce qu'il y a un autre site qui s'appelle Shodan.io, puis ça, c'est un vrai site de geek. Là. Lui,
c'est parce que c'est pas tout le monde qui savent que ce site-là existe. Donc,
non,
tu sais, si comment...
Ben non,
défaut,
je
faut
sais.
Il faut que tu les appelles pour faire enlever ton...
Ben non, ça, il faut tomber dessus. Là.
Ouais, c'est ça.
T'as raison, là. Puis il y a des images, le fun aussi. Il n'y a pas juste de l'observation de gens dans leur quotidien, mais il y a aussi des paysages. Je sais que la ville de New York, il y a une caméra près du port. C'est quand même le fun à voir. Même le soir tard et la nuit, tu peux voir. Tu peux même y aller par fuseau horaire et tout ça. C'est ça, je vous dis, il y a un côté addictif à ça, mais en même temps, il y a un côté qui me dérange. Donc, je vous dirais que si vous avez des caméras à la maison, mais assurez-vous que vous avez changé au moins le mot de passe de base. Ne pas mettre admin, parce qu'automatiquement, vous pouvez peut-être vous retrouver là. La bonne nouvelle, c'est quand je regardais Québec-Montréal, il y en a peu de caméras qui sont répertoriées.
Okay.
Il y en avait peut-être une dizaine au total. Donc, c'était pas si mal. Puis même, si vous allez sur le site, vous pouvez même, une fois que vous avez géolocalisé, vous pouvez vous promener sur la carte, puis il y a un genre de Google Maps, et vous voyez vraiment tous les endroits où il y a des caméras ouvertes. Je vous dis, vous en avez pour des heures de stockage. c'est ça, c'est...
Stockage légal.
Oui. C'est de l'enquête profonde. Donc, voilà. Donc, c'était ma deuxième curiosité web, Insect Cam.
OK, ben c'est pas rassurant du tout, mais tu dis que tu peux pas chercher par t'en as pas trouvé beaucoup au Québec, mais est-ce que tu as des tags, je veux dire, tu peux-tu chercher par de commerce?
Oui, il y a une certaine limite dans les catégories, mais oui, là, t'as café, bureau, hôtel.
OK, mais c'est troublant, ça, quand même.
Oui, quand même. Heureusement, j'ai pas vu de chambre d'hôtel, mais dans les hôtels, mais oui, puis à chaque jour, évidemment, les choses changent. Puis la section, il y a deux sections intéressantes, c'est les nouvelles caméras, parce que ça, c'est le fun, tu vois les nouveaux pigeons, là, je peux dire ainsi. Puis t'as aussi les plus populaires aussi, ça aide à vous diriger dans votre, votre curiosité.
Bon, mais je pense que tu viens de faire naître des nouveaux hobbies, là, Seb,
oui,
dans l'audience.
Oui.
Hein,
non, mais je vous le dis, il y a quelque chose de...
Je vous vois bookmarker le site, là, sur vos...
insect.org, si vous l'oubliez, écrivez-moi.
OK. Bon sujet, bonne curiosité, Seb. On va passer au prochain sujet qui est un des miens, en fait. Et là, peut-être qu'on va tomber dans un sujet sérieux. En fait, c'est l'histoire du stalker de la chanteuse Bjork. Peut-être que c'est une histoire que certains d'entre vous ont entendu parler. On se disait justement tout à l'heure dans la loge à quel point Bjork est une chanteuse extraordinaire. Moi, personnellement, ma voix féminine préférée, sans doute, sur cette planète. Mais il lui est arrivé des trucs assez troublants à la chère Bjork. Mais je vais commencer l'histoire un petit peu à l'envers. En fait, on est au début des années 2000 et puis il y a un certain réalisateur, je vais vous trouver le nom, il s'appelle Domiziano Cristofaro, en fait. Et puis lui, il a sorti un film, on est même en 2019 en fait, qui s'intitule « The Obsessed ». Et c'est un peu, on a découvert dans ce film-là, qui est supposément une fiction en fait, on découvre la vie de quelqu'un qui est obsédé par une chanteuse et qui vient à commettre l'irréparable, c'est-à-dire qu'il met fin à ses jours devant la caméra. Et puis, on s'est rendu compte que cette histoire-là, en fait, du film sorti en 2019, est inspirée d'un genre de lost media, dans le fond, une vidéo qui a été perdue au fil du temps, par les décennies. Et cette vidéo-là a été sortie, en fait, il fait référence, vous allez voir, vous allez me suivre jusqu'au... vous allez réussir à suivre, faites-vous-en pas.
C'est clair.
Il fait référence à une vidéo qui est sortie en 2000 par un certain Sami Saif. Et cette vidéo-là, c'est une vraie vidéo. Elle met en lumière, en fait, un certain Ricardo Lopez, qui, lui, a documenté son obsession envers la chanteuse Bjork via un journal vidéo là, qui dure plus de 22 heures. Là, tout en petits bouts.
22 heures.
Donc, c'est assez troublant. Mais avant ça, on n'avait pas eu connaissance, l'Internet n'avait pas eu connaissance de cette histoire-là qui s'est déroulée plutôt dans les années 90, en fait. Donc, ça a remis la lumière, en fait, sur tout ce qui est arrivé à Bjork et à ce certain Ricardo Lopez. Les événements remontent, en fait, à 1993, là où Ricardo Lopez est devenu obsédé par Bjork. Il a commencé à rassembler des informations sur sa vie, à suivre sa carrière, puis il lui a écrit même de nombreuses lettres, en fait, de fans qu'il lui envoyait par la poste. Initialement, Lopez, il la citait comme sa muse, puis il lui affirmait que la voix de Bjork lui procurait une sensation euphorique, et puis il est devenu vraiment obsédé par elle. Dans son journal, parce qu'il a fait un journal écrit aussi, il souhaitait être accepté par Bjork, il souhaitait qu'il y ait une conversation avec elle.
Oui, oui.
À cette époque-là, à cette époque-ci, en ce moment, on est habitué aux relations parasociales.
Oui,
on est habitué à communiquer avec les vedettes comme si on les connaissait, puis à commenter leur statut, puis comme si c'était notre ami et tout ça. Mais à cette époque-là, c'était différent. Mais lui, il voulait vivre justement une forme de relation parasociale.
C'est un avant-gardiste.
Bjork. Exactement. Donc lui, il y a même, évidemment, il y avait des fantasmes sexuels à son égard, tout ça, puis il en est devenu amoureux. Il a même écrit, son journal écrit, en fait, fait 803 pages. Donc c'est un long journal où il décrit vraiment ses pensées, ses sentiments à propos de Bjork, et où il parle aussi de son complexe, parce qu'il est en surpoids, il est très complexé par ça. Il a l'impression que justement Bjork ne l'accepterait jamais, en fait, en raison de ça. Lui, il avait 21 ans à l'époque, donc il était quand même assez jeune. Puis je dirais que sa relation avec la chanteuse a pris un autre tournant quand il a appris que Bjork était en couple avec Goldie.
Le musicien drum and bass britannique.
Et puis là, Lopez, à ce moment-là, il a très mal réagi.
Il était jaloux.
Et c'est là qu'il a élaboré un plan de harcèlement vraiment intense envers Bjork. Il a même décidé de la tuer dans sa tête en lui envoyant une lettre piégée contenant de l'acide sulfurique, de faire en sorte que le liquide brûle son visage lorsqu'elle ouvrirait le paquet.
Oui, oui, oui.
Puis il a commencé dès ce moment-là, dans son stade de, d'obsession, a enregistré son, son, ses journaux de manière vidéo. Donc, il s'est filmé, puis il expliquait ses pensées et tout ça.
S'auto-incriminait?
Oui, il documentait en fait son, son cheminement. Donc, il a envoyé le paquet piégé à l'adresse de Bjork à Londres à l'époque. Puis, heureusement, ben, la police britannique a réussi à intercepter le colis. C'est quand même, c'est oui. quand même bien, là, en 96.
Oui, oui,
on était moins dans, les, dans, la, dans, dans le numérique que maintenant. Mm-hmm. Mais ils ont quand même réussi à intercepter le colis. Puis, ils ont pris des mesures là, pour protéger Bjork parce qu'ils se sont rendus compte que, bon, ça tournait pas rond auprès de mm-hmm. cette personne-là. Puis, ils ont commencé à enquêter sur Ricardo Lopez. Malgré le paquet bon, qui n'a pas fonctionné, Lopez, lui, il a continué à enregistrer ses vidéos dans lesquelles il exprimait sa frustration et sa tristesse envers son, sa relation qui n'était pas réciproque avec.
Mais dis-moi, Émile, oui? si on interceptait le paquet, ils ont pas, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait, comment dire, retracé Ricardo?
Ben en fait, à cette époque-là, je pense pas qu'ils savaient que c'était
non, c'est ça,
hein. Ricardo. Mm-hmm. Mais oui, c'est sûr que la Poste, avec ce document-là, ils ont quand même réussi à, oui, oui. À faire une étape. Là. Mais ils savaient pas qu'ils connaissaient pas son nom à cette époque-là. Là. Puis, c'est là que, justement, quand ils se sont pointés chez lui le 16 septembre 1996, ils ont découvert, en fait, son corps dans son appartement à Hollywood, en Floride. Donc, c'était un okay. homme de la Floride, en fait, Ricardo Lopez. Bjork était à Londres à cette époque-là. Et puis, peut-être qu'on peut changer l'acétate, en fait. là, on voit des extraits. En fait, j'ai pas mis ce qu'il y a de pire, mais déjà, c'est quand même assez, assez troublant. C'est un peu des extraits de son journal vidéo. C'est un peu le type de qualité qu'on avait. Donc, il racontait ses histoires, puis son obsession, puis il y avait toujours des panneaux avec des messages à l'intention de Bjork. Et puis, dans cette vidéo-là, ben, ça se termine avec, avec lui, en fait, qui se tire une balle dans la tête. Le monde du true crime étant ce qu'elle est, des gens ont fait des bobbleheads à son effigie, exact. Donc, c'est un peu... un peu creepy, bon, mais ça existe comme...
Mon Dieu, je suis tombé mal à l'aise. Je savais pas trop comment interpréter le bobblehead, quand, ben, pas le bobblehead, le pop, là, quand je l'avais vu. Mais je savais pas que c'était... Mais est-ce que ça a été fait par la compagnie pop? Ça se peut pas.
Ah ben ça, non, je pense pas.
Non,
c'est
ça doit être quelqu'un qui a fait, oui, c'est ça.
C'est
tellement pas éthique, là, je peux pas croire. Là.
Ou à la boutique à côté des pop de Star Wars,
oui, c'est
là,
ça.
Je pense pas qu'il y ait Ricardo Lopez là, chez Toys R Us.
Mais il y a peut-être Ricardo à l'arrivée.
Ceci dit, Bjork, elle a fait une déclaration aussi suite à ces événements-là. Hein. Elle s'est dit qu'elle était très, très bouleversée. Elle a même envoyé des fleurs à la famille de Ricardo Lopez. Donc, on voit à quel point elle était quand même empathique mm-hmm. envers la famille.
Oui, oui, bien, oui.
Puis tout de suite après, elle est partie en Espagne où elle a enregistré en fait Homogenic à l'époque, là, son album, mm-hmm. Pour être à l'abri de l'attention médiatique suite à ces incidents-là. Donc, elle a dit qu'elle n'a pas pu dormir pendant plusieurs temps, puis que ça l'a effrayée. Elle craignait aussi, elle avait un fils à l'époque, donc elle craignait évidemment pour la sécurité de son fils. Mais bon, il n'y a pas eu d'autres cas depuis de stalker envers elle, mais bon, c'est quand même un événement ultra bouleversant qu'elle a vécu. Puis c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû connaître, nous, en fait, parce que cette vidéo-là, pré-YouTube, donc personne n'était supposé la voir.
Oui, c'est vrai. Hein?
Qui c'était destiné sans doute aux gens qui allaient trouver son corps ou à sa famille ou à ses amis.
Oui, oui, oui.
Mais on ne s'attendait pas à trouver ça. Donc, c'est vraiment un peu une histoire qui est ressurgie à nos oreilles grâce à Internet. Bref, pour le pire ou le meilleur.
Oui. Mon Dieu, c'est troublant. On dirait que je n'écouterais plus l'album. Voyons, j'ai un blanc de mémoire sur le nom que tu as nommé. L'album
Homogenic.
Homogenic, justement, qu'elle a enregistré tout de suite après. Moi, je vais l'écouter dans les prochains jours. On dirait que j'ai envie de voir
si une influence avec...
Exact, exact. Mais tu sais, son empathie démontre qu'elle comprend. Là, c'est un problème de santé mentale. Là. Quand tu es rendu là, tu sais, c'est...
Oui, sans aucun doute.
C'est... C'est
tragique dans la réalité.
C'est ça, c'est triste, là, en fait. C'est beaucoup plus de tristesse qu'autre chose. Là. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres victimes d'une certaine façon. Il aurait
oui,
pu avoir autre chose. Ah, bien, cool, méchante histoire, pareil. Tu as ressorti ça des boulamites. Donc,
Et de ton côté, Seb, en fait, ta dernière histoire.
Oui, celle-là, elle est assez particulière. Ah oui. Oh. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui connaissent cette histoire.
Ça, c'est une belle curiosité du web aussi.
Oui, c'est assez particulier. Puis là, je vous remets dans le contexte. Là. En fait, ça a commencé qu'il y a eu des preuves rapportées qui indiquaient qu'il y avait un homme qui était connu sous le nom de Disman, apparaissait dans les rêves de plusieurs personnes depuis les années 80. Puis selon le site Ever Dream This Man, avec un point d'interrogation, donc est-ce que vous avez déjà rêvé à cet homme, il y a eu une première image de cette esquisse-là qui a été mise sur le site en janvier 2006, supposément par un psychiatre bien connu de New York. Et ça, c'était basé sur une description d'un patient là, qui prétendait que ce visage-là était un sujet qui était récurrent dans ses rêves, okay. En fait. Bien qu'il n'ait jamais connu une personne qui ressemblait à ce type de personne-là. Puis quelques jours plus tard, il y a un autre patient, supposément du psychiatre, qui a reconnu le dessin et que lui aussi disait que ce personnage-là figurait dans ses rêves aussi, pouvait lui donner des conseils professionnels et tout ça. Et il s'est mis le psychiatre s'est mis à recueillir en fait plusieurs témoignages de personnes qui disaient qu'ils voyaient ce personnage-là. Et ça a fait boule de neige sur Internet, sur Reddit et tout ça, jusqu'à se rendre jusqu'à, supposément, 8000 personnes auraient témoigné de ça. Puis il y avait des témoignages crédibles pendant des années. Même Vice, peut-être que vous connaissez ce média-là, avait fait un article sérieux sur le sujet. Et okay. Quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que c'était, en fait, un canular. Mais ça a duré des années, hein, parce que même moi, j'y croyais à cette histoire-là, parce qu'il y avait un phénomène que ça se retrouvait, supposément qu'il y avait des gens de Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Pékin, Rome, Barcelone, Stockholm, New Delhi, etc., où ce que, il y avait des vrais témoignages, des témoignages qui étaient écrits sur le site web. Et je vous dis, c'était tellement crédible.
Les gens témoignaient sur le site en disant « Oui, j'ai bel et bien rêvé à cet homme-là. »
Puis toutes sortes de rêves. Il était un conseiller spirituel, il y avait des rêves sexuels, c'est vraiment particulier. Puis ce qui est étrange, c'est qu'il y a des psychologues, même des sociologues qui se sont basés sur ça. Et il y a plusieurs théories par rapport à ça. Pourquoi que supposément les gens rêvaient à lui? Bien, c'est un peu un archétype. Type, hein? Ça serait une image, ils disent que les gens, c'est le concept de Carl Jung, le philosophe, c'est un psychiatre ou un philosophe, en tout cas bref, qu'il y avait une image archétypale, inconsciente, que les gens voyaient partout dans des situations de vie très difficiles. Aussi, il y avait la théorie religieuse, pour certaines personnes, c'était une forme de manifestation de Dieu. Il y avait aussi le surfeur de rêve, que c'était une force extérieure qui implantait domaine dans l'esprit des gens, dans le rêve des gens, à partir de projections surnaturelles ou de conditionnement mental. Puis là, je vous cite des choses. aussi, il y a l'imitation du rêve. Puis ça aussi, j'avais l'impression que c'était ça, parce que ce phénomène-là, je suis convaincu qu'il y a des gens qu'au final, après avoir lu ça, ont fini par y rêver. Puis
oui, peut-être, par suggestion.
Oui, exactement. Oui, c'est ça, par suggestion. Ils appellent ça la théorie de l'imitation de rêve. Les gens ne rêvent de des semaines qu'après avoir appris le phénomène et l'image, puis ça a laissé une impression sur leur esprit. Puis ça, je suis convaincu que ça a eu un réel impact dans les témoignages. Mais il y a aussi une dernière chose, il disait la théorie de la reconnaissance diurne. Diurne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est deux jours, là, donc c'est le contraire de nocturne. Et les gens se souviennent mal des visages de leurs rêves, donc ils peuvent supposer que ça représente cet homme-là après avoir vu ça. Mais en fait, finalement, le débunkage de ça, c'est un génie marketing, en fait, qui s'appelle Andrea Natella. Puis lui, il dirige une entreprise qui s'appelle Guérilla Marketing, qui est un genre de jeu de mots avec une guérilla marketing, qui est une guérilla marketing, c'est du marketing un peu agressif là, qu'on fait par rapport à ça. Puis eux, se sont toujours spécialisés en type de canular un peu subversif, un peu de ce genre-là. Mais honnêtement, c'est vraiment du génie. Le site existe toujours encore, c'est thisman.org. Vous pouvez aller voir, les témoignages sont encore là. Il y a quelque chose d'étrange, on le sait que c'est pas vrai, que ça fonctionnait. Même à la base, la théorie, c'est que c'était basé sur un film qui allait sortir un peu sous le même thème, mais il n'y a jamais rien eu qui s'est déroulé par rapport à ça. Il y a même une compagnie de films, je pense que c'est Universal ou une autre compagnie qui avait racheté le nom de domaine. C'était les propriétaires du nom de domaine, mais finalement, il n'y a rien eu par rapport à ça. Mais ce phénomène-là, il a fait le tour du web vraiment pendant plusieurs années, même moi, avant de retravailler pour ce cabinet des... Je pensais que c'était encore vrai. Pour être bien honnête, je ne savais pas qu'il avait été débunké.
Mais pour quelle raison ils ont pris ce visage-là, là, comme ça, en fait? Est-ce que c'est fait à base d'une vraie personne?
Techniquement,
clairement
non.
Clairement pas Éric Bruno ici, là, non, mais... Quand même, y a-t-il une raison pour laquelle ils ont choisi un peu ce visage-là, cet archétype de visage-là?
C'est une très bonne question. J'ai pas tant que ça la réponse, mais ça m'intrigue moi aussi parce qu'il y a quand même des airs un peu quasiment néandertal, là, tu sais, avec ses sourcils, sa forme, comme sa physionomie.
Côté Mr. Bean,
un peu. Puis même, je lisais qu'il ressemblait à un acteur que je connais pas, là, Andrew. Attendez, je vais peut-être vous retrouver ça. Si je suis capable de le retrouver rapidement. Mais bref, il y a un look aussi d'un autre acteur qui... Ah oui, c'est Andrew Lloyd Webber. Il y en a même qui trouvent qu'il ressemble à Stephen Hawking. Je trouve pas tant que ça. Sinon, Abdel Fattah El-Sisi, que je ne sais pas c'est qui. Mais ce phénomène-là a été tellement populaire que, je veux dire, ça s'est retrouvé dans des épisodes de X-Files, même ça a l'air dans Twin Peaks. Donc, ça l'a débordé de l'Internet. C'est devenu une forme de phénomène culturel.
Oui, le phénomène social,
on dirait, vraiment.
De conditionnement de masse, je ne sais pas comment dire
oui,
ça.
Oui, exact. Puis je suis convaincu que je risque d'y rêver cette nuit. J'espère qu'il va me donner des bons conseils.
Cool, mais merci Seb, intéressant. Oui, j'avais déjà entendu parler un peu aussi de cette histoire-là, mais je ne savais pas que c'était à ce point élaboré.
Oui, c'est honnêtement, c'est du génie. C'est du génie là, pour avoir arrivé à maintenir une forme de vérité comme ça. Je trouve un phénomène comme ça pendant plusieurs années, toujours en gardant la suspicion. Je trouve que c'est un bon coup.
Yes. Dernier sujet maintenant. Ben oui, ça tire tranquillement à sa fin, tout ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Chip Chan? Connaissez-vous Chip Chan? Non. Ça, c'est toute qu'une histoire. En fait, c'est une histoire qui remonte il y a assez longtemps, début des années 2000. Ça s'est déroulé jusqu'à presque tout récemment, même que des fois, ça se déroule encore. En fait, Chip Chan, c'est une femme sud-coréenne qui habite dans son appartement et qui est filmée, qui est surveillée 24 heures sur 24. Et puis, ses vidéos d'elle dans son appartement sont diffusées sur des sites de streaming coréens, en fait.
Okay.
Donc, ce n'est pas streamé sur Twitch ou YouTube, par exemple. Et puis, assez arrêté. Le stream s'est arrêté aux alentours de 2011.
OK.
Mais il y a encore des vidéos qui ont refait surface, même récemment, provenant de Chip Chan. En fait, elle, c'est un peu comme ça qu'elle a attiré l'attention, là, je dirais, du grand public avec ses streams que les internautes trouvaient un peu mystérieux. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on la voit dormir, on la voit manger des ramen, on la voit taper à l'ordinateur, tout ça. On la voit dans son quotidien et c'est sans fin, en fait. Là. Encore une fois, on parlait de ton sujet de caméra de surveillance tantôt. Ben là, on a un cas c'est diffusé live.
C'est
et même,
voulu. Là. Ouais,
au moment où elle diffusait, je me rappelle, j'avais trouvé des feeds. J'allais regarder ça par curiosité et c'est des milliers de gens qui regardaient live. Donc, c'est vraiment bizarre. Elle interagit de différentes façons avec les gens. Elle va aller sur des forums, elle va écrire des fois quelques paragraphes. Elle va parfois répondre sur le chat de ses streams, mais elle ne semble pas être en contrôle du stream. Ça semble être quelque chose auquel elle est forcée, en fait, participer. Elle va aussi communiquer avec des panneaux, puis avec des inscriptions en coréen. Vous voyez ici, on en voit plusieurs.
Oui,
donc,
oui.
Elle va passer beaucoup de temps à écrire live sur des grands panneaux qu'elle va mettre par la suite dans les streams et que les internautes d'un peu partout vont s'amuser à interpréter. Mais en gros, elle, ce qu'elle prétend de son côté, c'est qu'elle est victime de harcèlement puis de contrôle, en fait, de mind control par des individus malveillants en Corée du Sud, en fait, y compris les polices puis les agences gouvernementales. Hmm. Elle prétend qu'il y a un certain Pi, la lettre P, en fait, qui serait un policier à la retraite qui la maintiendrait captive dans son petit appartement. Donc, elle dit même qu'elle a été impliquée dans des expériences médicales secrètes, peut-être des extraterrestres, on ne sait pas.
Et doigts gris.
Que même des dispositifs auraient été implantés en elle pour la surveiller. Donc, on sent qu'il y a peut-être un petit peu de paranoïa autour de ce qu'elle dit, mais avec raison aussi, à quelque part, parce que c'est quand même assez particulier ce qui arrive. Elle va décrire aussi, en répondant aux gens sur les chats, elle va parler de ses préoccupations, de ses différentes expériences, mais souvent, c'est toujours un petit peu cryptique, donc difficile à décoder pour les internautes. La communauté Internet s'est énormément inquiétée encore maintenant. Il y a une page Reddit qui lui est dédiée. Il y a encore un vif intérêt, malgré le fait qu'elle ait fini de diffuser en direct officiellement en 2011. Et à ce moment-là, la communauté est devenue un petit peu en suspens et tout le monde a commencé à se demander un peu ce qui lui est arrivé. Elle a fait un petit retour dans les dernières années. Son style de vidéo a changé un peu. Okay. On la voit qui va sortir dehors, puis qui va... on dirait qu'elle prend plaisir ou... je ne sais pas si elle fait ça par vengeance, mais elle va filmer des policiers presque d'une manière intimidante. Donc, okay. Elle va débarquer, elle va voir un policier au coin de la rue, elle va le filmer, tout ça. Puis souvent, les policiers vont mal réagir, ils vont la repousser. Donc, elle semble, à quelque part, penser que, justement, elle est sur haute surveillance de la part d'à peu près... tout ce qui a un uniforme, finalement. Il y a même un Américain, en fait, il y a environ 5 ans, qui s'est proposé, lui, de la marier pour lui donner, puis d'aller la sauver sur place, puis lui donner la citoyenneté américaine et la ramener dans son propre pays. Donc, c'est un peu une drôle de tactique. un petit peu à la cowboy, si on veut. Ça a été très critiqué en ligne et ça ne semble pas avoir été arrivé. Donc, il y a plein de gens qui essaient d'organiser même des opérations de sauvetage, de tenter de repérer selon les angles de caméra dans quel quartier elle serait. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression qu'on la déplace. Donc, lorsque ça fait trop longtemps qu'elle était filmée à un même endroit, à un moment donné, on se rendait compte que les fenêtres sont plus aux mêmes places. Puis elle le disait, elle a été amenée ailleurs. Mais on ne sait même pas c'est quoi l'intérêt derrière ça, le mobile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la garde captive? Mais si oui, quel est l'intérêt de garder quelqu'un, de juste filmer quelqu'un en permanence dans un appartement? C'est un petit peu bizarre. J'arrive pas à me faire une logique derrière
non,
ça.
Non, mais non.
C'est pas comme s'ils vendaient de la pub.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de commandite ou quoi que ce soit.
On n'a pas l'impression que du trafic humain, elle ne semble pas être physiquement abusée, du moins. Sans doute que psychologiquement, oui, mais du côté, elle ne semble pas, être... offrir des services d'escorte pour un pimp ou autre, ou être exploité de cette façon-là, du moins. Donc, c'est un peu mystérieux. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est filmée? Est-ce que c'est elle qui a orchestré tout ça? Plus récemment, justement, dans les dernières années, lorsqu'elle se filmait, c'était souvent des gros plans aussi de ses blessures. Donc, elle affirmait qu'on lui avait mis des implants, des choses comme ça, que son corps réagissait différemment. Puis c'est vrai qu'en observant ces vidéos, c'est dur de voir comment elle aurait obtenu ces blessures-là, mais c'est quand même quelque chose d'intriguant. Puis à ce jour, on ne sait toujours pas, en fait, qu'est-ce qui est arrivé à Chip Chan, si elle est en sécurité. Mais il y a encore énormément d'intérêt sur Internet envers, envers elle, puis envers, envers ces vidéos-là qui ont été diffusées au début des années 2000, là, pendant plus d'une décennie, en fait.
Ouais, c'est assez fou. Hein? Je vois une forme de parallèle avec Nazoubi. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Nazoubi, hein, qui participait à un concours, ben, des oui. concours, là. On dirait qu'une forme de ça, un peu... c'est sûr qu'il n'est pas dans le même contexte, mais je suis vraiment curieux. J'ai de la misère à saisir. C'est ça, comme tu dis, c'est vraiment étrange. Étais-tu vraiment sous la force de
Ben, le parallèle est intéressant parce que Nazoubi, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté notre épisode, ça fait partie d'un peu des curiosités de la télé japonaise, si on veut. Oui. C'est quelqu'un qui a été enfermé dans un appartement. Il était filmé sans savoir qu'il était diffusé dans une émission de télé-réalité, en fait. Puis il devait survivre en remplissant des coupons pour gagner des concours.
Pour manger.
Donc, il n'y avait ni vêtements, ni nourriture, ni rien. Il devait remplir des concours dans des magazines. Il était laissé dans une pièce vide avec un crayon et des magazines. Puis il devait survivre en... C'était ça le show. Puis c'est 50 millions de gens au Japon qui le regardaient dépérir devant la caméra. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans le cas de Chip Chan, mais ça se déroule sur une, voire deux décennies. Donc,
oui, c'est ça qui est étrange.
Il n'y a pas l'air d'avoir de prix à la fin. Là.
Puis on a dû l'avoir vieillir au fil du temps.
Quand
aussi,
même, ben oui.
Ah non, c'est... Je le connaissais, ce cas-là. Je suis un peu troublé. On dirait que ça me ramène... Mm-hmm. Ça me ramène ça. Il n'y a comme pas de finalité ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est dans le sens que on le sait pas. Tu sais,
on ne le sait toujours pas. C'est toujours en cours. Donc,
c'est vraiment étrange. Ah ouais, très belle curiosité, Émile. C'est intriguant, tout ça.
Yes. C'était notre dernier sujet pour la soirée, guys. J'espère que vous avez aimé votre soirée, pardonnez-moi. Petite dernière chose de notre côté. J'ai en main, en fait... un exemplaire fraîchement arrivé d'une bande dessinée sur laquelle on a collaboré, qui s'intitule Low Reader, en fait, qui est une bande dessinée européenne qu'on a réalisée avec Ron, qui a illustré nos deux premiers livres. Donc, ça sort le 30 novembre au Québec. Une bande dessinée d'horreur quand même, hein? Sensible s'abstenir.
Oui,
c'est en précommande sur leslibraires.ca si vous voulez encourager votre librairie indépendante. Donc, c'est un beau projet dont on est fiers. Mon chat Nala fait une apparition dans la bande dessinée pour les intéresser. Sinon, ben merci d'être venu, guys. Merci à Un peu de crime dans ton café. Merci à Crime Tonic aussi d'avoir réchauffé la soirée. Nous, c'est un plaisir de vous voir comme toujours. On veut en faire plus des soirées comme ça, donc surveillez ça. Ça se peut qu'on se déplace dans votre région pour ceux qui ne sont pas de Montréal. Et puis, ben j'espère que vous avez aimé la soirée. Sinon, on va rester autour si vous voulez venir nous jaser un petit peu.
Mais merci tout le monde. Merci vraiment d'être venu. Yeah. Merci.